Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 21h en temps universel.
Mathilde Cariou.
Pas de percée nationaliste en Roumanie. Les sondages donnaient le candidat d'extrême droite gagnant pour l'élection présidentielle. Il se classe finalement quatrième et n'atteint pas le second tour. L'ambassade d'Israël en Jordanie, visée par une attaque ce matin à Amman, dans un contexte de tension entre Israël et son voisin. Nous irons également à Koursk, territoire russe occupé par l'Ukraine, où les déplacés désapprouvent l'escalade de la guerre. Et puis les pays du Sud lésés à Bakou, l'accord de la COP29 ne satisfait pas du tout l'Inde. 25% des voix pour la social-démocratie. En Roumanie, ce soir, c'est le premier ministre pro-européen qui se classe en tête du premier tour de la présidentielle. Derrière lui, à la deuxième place, la candidate de centre-droit et bien plus loin, avec seulement 15% des voix, le candidat nationaliste Georges Simion. Pour le professeur de sciences politiques Sergio Mesekoyou, c'est surtout ça l'information à retenir. Contrairement à ce qu'indiquaient les sondages, l'extrême droite n'a pas percé.
La grande surprise est Călin Georgescu, qui est troisième, qui a raflé les voix de George Simion, pressenti depuis des lustres comme deuxième homme de cette élection. Donc c'est surtout une guerre fratricide qui nuit à une frange plus installée. Tout le monde faisait attention à George Simion. Les grands partis essayaient de contrecarrer son discours, et alors que entre-temps, Georgescu était capable de pénétrer dans les zones plus profondes et plus mécontentes. Donc le combat entre une extrême droite et une droite nationaliste a donné gain de cause à l'extrême droite. La droite nationaliste, notabilisée ou régulière, a un gros problème parce que son candidat arrive très probablement en quatrième position. Et pour l'élection parlementaire qui a lieu la semaine prochaine, le 1er décembre, elle sera en grande difficulté.
Des propos recueillis par Oriane Verdier. Au contraire, l'extrême droite autrichienne confirme sa bonne forme électorale avec un très net succès au régional dans la province de Styrie. Le parti de la liberté FPE a recueilli près de 35% des voix, soit le double de son score en 2019. Et c'est la première fois que l'extrême droite arrive en tête dans cette région. Et puis c'est jour de vote également en Uruguay. Deuxième tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Les candidats de la coalition de droite et de l'opposition de gauche sont au coude à coude dans les sondages. Journée particulièrement dense sur les différents fronts du conflit au Proche-Orient. Plusieurs bombardements ont visé aujourd'hui la banlieue de Beyrouth au Liban. D'autres tirs sont à prévoir dans la soirée puisque l'armée israélienne ordonne l'évacuation d'une dizaine d'immeubles. Dans le centre-ville, les recherches de corps continuent après l'attaque du quartier de Basta. Hier dans la journée, au moins 29 personnes sont mortes et 67 blessées. Le Hezbollah riposte aujourd'hui avec plusieurs centaines de projectiles envoyés sur le territoire israélien, dans le nord, à quelques kilomètres de la frontière. Pas de victimes, mais la milice affirme que des chars ont été détruits. Dans ce contexte, une réunion sécuritaire a lieu en ce moment à Tel Aviv, d'autant plus qu'Israël a subi une autre attaque, cette fois-ci hors de son territoire. C'est son ambassade à Amman, en Jordanie, qui a été visée en fin de matinée. Reportage Mohamed Erami.
Un jeune homme dans la vingtaine a ouvert le feu sur des policiers jordaniens près de l'ambassade israélienne à Amman. L'attaque a fait 3 blessés parmi les forces de l'ordre. L'assaillant, âgé de 24 ans, a été tué sur place. La police jordanienne n'a pas donné d'informations sur ses éventuels liens avec des groupes terroristes. Selon l'expert en sécurité Omar Al-Radad, il semble que l'attaque soit un acte isolé, sans connexion avec des organisations armées.
Cette attaque présente deux aspects. Il pourrait y avoir un lien avec des groupes pro-Hamas et pro-Hezbollah, ou bien elle pourrait avoir des motifs de vengeance contre la police. Mais ce sont les enquêtes qui devront en déterminer les raisons.
Le porte-parole du gouvernement, Mohamed Momani, a qualifié l'attaque de terroriste et a promis que les responsables seraient punis.
L'état de santé des policiers blessés lors de l'attaque est stable et nous espérons leur rétablissement rapide. En tant que gouvernement, nous les soutenons pleinement car ils ont agi dans l'exercice de leurs devoirs pour protéger la sécurité et la stabilité de la Jordanie.
Depuis plus d'un an, des manifestations se déroulent près de l'ambassade israélienne en soutien aux Palestiniens et contre la guerre à Gaza. L'ambassade, elle, reste vide après le refus de la Jordanie de permettre le retour du diplomate israélien à Amman. Mohamed Erami, Amman, RFI.
Sur le front de la guerre en Ukraine, l'intensification annoncée la semaine dernière par Vladimir Poutine n'a effectivement pas traîné. En l'espace d'une semaine, échanges de Storm Shadows et de missiles balistiques se sont multipliés. Et si c'est la volonté des belligérants, ça n'est pas du tout celle des civils à Koursk, notamment région russe occupée par l'Ukraine. Les déplacés sont en colère car personne ne pensait que le conflit allait durer aussi longtemps. Alexander Novikov, 20 ans, voit les opposants défiler dans son centre d'aide humanitaire et tous les jours, il entend ce ras-le-bol.
Les évacués ont besoin que le pouvoir leur montre une direction, une vision de l'avenir. Les gens qui vivent dans des centres d'hébergement temporaire, ici ou dans d'autres régions, même en banlieue de Moscou, n'arrivent absolument pas à comprendre ce qui est censé se passer ensuite. Ils ne savent pas quand ils reviendront chez eux, ils ne savent même pas s'ils y reviendront, ni à quel prix ils y retourneront. Ils ont besoin qu'on leur parle, qu'on leur donne une vision. Le deuxième problème, c'est bien sûr la question du logement, car ils sont beaucoup à vivre encore dans le provisoire. Il faut donc résoudre ce problème administratif. Et le troisième point à améliorer, c'est l'aide humanitaire. Il faut l'augmenter et la cibler de manière à ce qu'elle réponde aux besoins précis des personnes. Mais pour cela, il faut une volonté politique et une volonté de montrer le chemin de la part des dirigeants eux-mêmes.
Un propos recueilli à Koursk par Anissa El-Jabri. Vladimir Poutine, qui a longuement échangé avec son homologue turc aujourd'hui au sujet des échanges commerciaux entre les deux pays. Recep Tayyip Erdogan entend les augmenter dans les mois à venir. Ankara n'est pas officiellement un allié du Kremlin. Au contraire, elle a condamné l'offensive russe en Ukraine. Cependant, elle dit adopter une position neutre entre les deux pays et ne s'est jamais jointe aux sanctions de l'Occident contre Moscou. Situation tendue au Pakistan, une trêve d'une semaine a été annoncée par les autorités après les affrontements de ces derniers jours entre sunnites et chiites. Au moins 82 morts. La semaine de pause doit permettre l'échange de corps et de prisonniers. Une quinzaine de personnes sont portées disparues dans les deux camps. Ça, c'est pour le nord-ouest du pays. Et dans la capitale, Islamabad, c'est l'état de siège. Le régime a coupé les réseaux mobiles et internet. Alors qu'une manifestation doit être prévue aujourd'hui pour la libération de l'ancien premier ministre Imran Khan, actuellement en prison. 300 milliards de dollars par an et pas dans 10 ans. Les pays développés se sont enfin engagés à Bakou à financer davantage les pays menacés par le changement climatique. Cet engagement validé au terme d'une COP29 chaotique en Azerbaïdjan est bien loin des 1300 milliards de dollars dont auraient besoin les pays en développement à horizon 2035. Alors à l'issue de la confusion, beaucoup de déçus et en particulier l'Inde qui estime Pauline Glaize que la présidence azerbaïdjanaise lui a coupé l'herbe sous le pied.
Des applaudissements après le coup de marteau validant le texte sur le nouvel objectif de financement climat. Un coup de marteau tombé un peu trop rapidement aux yeux de Chandni Raina, la déléguée indienne l'a fait savoir pendant la plénière.
This has been an unfortunate...
Ça, c'est un incident malheureux. Nous avions informé la présidence que nous voulions faire une déclaration avant toute décision sur l'adoption. Nous sommes extrêmement, extrêmement déçus.
L'Inde reproche aux pays développés de ne pas prendre leurs responsabilités et de trop laisser la charge financière aux pays en développement à travers les financements fournis par les banques multilatérales de développement.
The goal is too little.
L'objectif est trop faible, trop distant. Ce document n'est rien de plus qu'une illusion d'optique et l'Inde s'oppose à l'adoption de ce document.
Derrière le court-circuitage de l'opposition indienne, c'est un espoir qui est douché. Céline Affaud, porte-parole du groupe Afrique, l'explique au micro de Jeanne Richard.
Cela nous aurait permis de rouvrir le texte et de l'améliorer. Beaucoup d'entre nous comptaient sur cela, ça n'a pas été fait. Malheureusement, ça fait partie de la négociation.
Et le fait que l'Inde ait martelé son opposition ne peut pas remettre en question l'adoption du texte.
Pauline Glaize envoyée à Bakou pour RFI. 41 corps découverts dans un monastère bouddhiste en Thaïlande. Il ne s'agit pas de personnes décédées aujourd'hui, mais de corps donnés pour des exercices de méditation. Déjà la semaine dernière, une douzaine de cadavres avaient été découverts dans un autre monastère. La police cherche à vérifier qu'aucun d'eux n'a été volé. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans un peu moins d'une heure pour un point sur l'actualité française. Ce sera 24 heures en France. En attendant, il est 22h10 ici à Paris.